Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour amis auditeurs, ravi de vous retrouver en ce dimanche 10 avril 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. Déclaration de 250 députés iraniens sur les pourparlers nucléaires. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. L'Iran ne reculera pas d'un iota sur ses droits, a déclaré le président Raïssi à l'occasion de la Journée nationale de la technologie nucléaire. Les Américains imposent de nouvelles conditions à la levée des sanctions. En dehors des négociations, déplore le chef de la diplomatie, Amir Abdollahian. Et puis le ministre iranien de l'économie annonce l'envoi au Parlement d'un plan visant à réduire l'impact des sanctions. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. À l'occasion de la Journée nationale de la technologie nucléaire, le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré que l'Iran ne reculera pas d'un iota sur ses droits. Le président Raïssi a une fois de plus réitéré sur la nature pacifique du programme nucléaire du pays, soulignant que Téhéran n'abandonnera jamais ses droits nucléaires dans les pourparlers visant à relancer l'accord multilatéral de 2015 avec l'Iran. Bien que les ennemis ne veuillent pas entendre cela, nous déclarons pour la énième fois que les activités nucléaires de la République islamique d'Iran sont pacifiques et tout refus de les accepter n'arrêtera pas notre travail, a déclaré M. Raïssi lors d'une cérémonie marquant la Journée nationale des technologies nucléaires célébrée ce samedi 9 avril en Iran. Dans les pourparlers sur le nucléaire, nous ne reculerons pas d'un iota sur les droits nucléaires du peuple iranien, a-t-il insisté avant d'indiquer. L'Iran n'a jamais quitté ni arrêté les négociations avec les 5 parties restant à l'accord officiellement connu sous le nom du plan global d'action conjoint PGAC, a-t-il déclaré, soulignant que son administration se sentait tenue de défendre les droits de la nation et les réalisations de l'Iran et de ses chairs scientifiques. Les négociations nucléaires doivent déboucher sur des avantages économiques garantis, a insisté le président du Parlement iranien. La 11e Assemblée souligne que les pourparlers sur le nucléaire doivent conduire à la réalisation d'avantages économiques garantis, durables et tangibles pour l'honorable peuple iranien, a déclaré le président de l'Assemblée islamique d'Iran. Mohammad Borel Ghalibov, s'exprimant lors d'une séance publique de l'Assemblée islamique d'Iran ce dimanche 10 avril, a félicité l'arrivée de la Journée nationale de la technologie nucléaire à l'honorable et fière nation iranienne et à tout scientifique assidu et infatigable de l'industrie nucléaire du pays. Parmi les développements fiers de l'industrie nucléaire ces dernières années, qui sont dus aux efforts des scientifiques, en particulier des martyrs nucléaires dans divers domaines, figure la production de produits radio-pharmaceutiques de haute technologie, se félicite le président de l'Assemblée islamique. La 11e législature a brisé les verrous de l'industrie nucléaire. Nous sommes heureux que dans la fière voie de ces développements, la 11e législature ait également brisé les verrous de l'industrie nucléaire en adoptant la loi d'action stratégique et joué un rôle en supprimant les obstacles au progrès à la promotion des réalisations scientifiques dans ce champ, ajoute le président du Parlement iranien. Le ministre iranien de l'économie annonce l'envoi au Parlement d'un plan visant à réduire l'impact des sanctions. Le ministre iranien des Affaires économiques et des Finances a annoncé dimanche la préparation et la soumission d'un plan visant à réduire l'impact des sanctions sur l'économie iranienne à l'Assemblée consultative islamique pour la première fois en 4 ans. Les efforts diplomatiques pour lever les sanctions ne signifient pas que nous ne devrions pas penser à réduire les effets destructifs des sanctions sur notre économie, a tweeté Ehsan Khandouzi samedi soir 9 avril. Les Américains imposent de nouvelles conditions à la levée des sanctions en dehors des négociations, a déclaré Amir Abdullahian. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que nous souhaitons la levée des sanctions, mais elle doit être honorée et durable. Et M. Raisi souligne qu'il ne faut pas se focaliser sur les négociations de Vienne pour relancer l'économie iranienne, a-t-il dit. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré lors d'une conférence de presse « Nous sommes parvenus à des résultats dans des discussions techniques avec 3 pays européens. En même temps, nous avons annoncé notre opposition à la guerre et l'imposition des sanctions unilatérales. Nous ne considérons pas la solution en Ukraine comme une guerre et nous considérons la solution politique. Lors de ma visite à Moscou, nous avons convenu avec la partie russe que si nos lignes rouges étaient respectées lors des pourparlers de Vienne et que nous parvenions à un accord, la Russie ne serait pas un obstacle, a ajouté Amir Abdullahian. La partie américaine a soulevé des exagérations au cours des 2 ou 3 dernières semaines dans un esprit maximaliste, ce qui est contre certains paragraphes du texte. Dans le domaine de la levée des sanctions en dehors des négociations, ils sont intéressés à proposer et à imposer de nouvelles conditions, déplore toujours le très haut diplomate iranien, avant d'éclairer que l'Iran n'a vu aucun intérêt à des pourparlers directs avec les États-Unis. Le secrétaire général du Haut Conseil iranien des droits de l'homme, tout en protestant contre le traitement physique violent des ressortissants iraniens par la police danoise, a appelé les autorités danoises à s'abstenir d'imposer des doubles standards aux ressortissants, tout en mettant fin à de tels actes inhumains. Dans une lettre adressée au ministre danois de l'immigration, Kazem Gharibabadi a protesté contre le traitement violent et inhumain d'une demandeuse d'asile iranienne par la police danoise. Dans la lettre, Gharibabadi a expliqué que l'acte de l'État danois de renvoyer la demandeuse d'asile iranienne avec ses 2 enfants et la séparation de son fils âgé d'un an qui est resté au Danemark avec son père est contre l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et article 7 du Pacte international sur les droits civils et politiques interdisent le harcèlement et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans une autre partie de la lettre, ce haut responsable iranien est indiqué « Les vidéos et photos publiées montrent que 4 personnes ont violemment maintenu cette citoyenne iranienne au sol. Une personne en civil apporte également des menottes de l'intérieur de la voiture pour empêcher la femme de bouger. Selon certaines informations, cet acte brutal aurait eu lieu sous les yeux des jeunes enfants de cette femme. » Autre thème, l'Iran soutient la Coupe du Monde 2022 au Qatar dans 3 domaines. La République islamique d'Iran soutient la Coupe du Monde 2022 au Qatar dans 3 domaines, à savoir le logement, le transport aérien et le transport maritime. C'est ce qu'a déclaré dimanche le ministre iranien des routes et du développement urbain. Rossam Rossemi a déclaré samedi soir 9 avril à son arrivée sur l'île méridionale de Kish. La Coupe du Monde est l'un des événements les plus importants et les plus influents sur la scène internationale. À l'issue de la visite de notre président Ebrahim Raisi au Qatar, le soutien de l'Iran à cet événement a été mis à l'ordre du jour du gouvernement. La crise politique pakistanaise entre dans une nouvelle phase avec des candidats pour le poste du prochain Premier ministre sur le point de déposer leur candidature dans les heures à venir. Le Parlement pakistanais se réunira lundi pour élire un nouveau Premier ministre après qu'Imran Khan ait perdu un vote de confiance au Parlement hier soir. Le limogeage de Khan fait suite à des semaines de troubles politique. La semaine dernière, les alliés de Khan ont tenté d'éviter le vote de censure en dissolvant la chambre basse du Parlement, mais la Cour suprême est intervenue et a ordonné au Parlement de se réunir à nouveau et de procéder au vote. Des Palestiniens organisent les funérailles d'un Palestinien abattu par les forces israéliennes dans le camp de réfugiés de Jenin au nord de la Cisjordanie occupée. Au moins 5 Palestiniens ont également été blessés dans la fusillade. Les troupes israéliennes ont fait une descente dans le camp et ont assiégé la maison d'un jeune Palestinien qui aurait été à l'origine d'une fusillade à Tel Aviv jeudi soir. Un certain nombre de soldats israéliens ont été blessés dans l'échange de tirs qui a suivi et ont été transportés par avion vers des centres médicaux. L'Ukraine se prépare à une offensive militaire russe majeure dans l'Est alors que le conflit entre les deux parties approche de sa 7e semaine. Le président Zelensky a déclaré que Kiev se préparait à des batailles importantes et potentiellement décisives dans le Donbass. Cela fait largement référence aux régions orientales de Lugansk et de Donetsk qui sont sous le contrôle des groupes pro-russes. Enfin, l'ombre d'une forte abstention plane sur la présidentielle 2022 en France. Plusieurs entreprises se sont engagées contre l'abstention à coup de promotion. Alors que le niveau de l'abstention est l'une des principales inconnues du premier tour de l'élection présidentielle, plusieurs entreprises tentent d'inciter les Français à se rendre aux urnes en proposant des offres promotionnelles, rapportent les médias français. Le premier tour de l'élection présidentielle de 2022 est fixé au dimanche 10 avril et par dérogation au samedi 9 avril et le second le 24 avril, a annoncé mardi le porte-parole du gouvernement français. Déclaration de 250 députés iraniens sur les pourparlers nucléaires. Le président du Parlement de la République islamique d'Iran a lu ce dimanche une déclaration signée par plus de 250 députés sur les pourparlers nucléaires adressée au président Ebrahim Raisi. À l'issue d'une séance publique de l'Assemblée consultative islamique ce dimanche 10 avril, une déclaration signée par plus de 250 parlementaires sur les pourparlers nucléaires a été adressée au président Raisi et a été lue. L'expérience des négociations précédentes montre que la réticence des États-Unis et des parties aux négociations à fournir les garanties nécessaires non seulement n'a pas servi en pratique les intérêts nationaux de l'Iran, mais a également causé des dommages aux intérêts nationaux et l'échec de l'accord en raison du retrait américain. Par conséquent, dans les nouvelles négociations, il est nécessaire que les États-Unis garantissent qu'ils ne quitteront pas le plan global d'action conjoint sur le nucléaire de 2015, PGAC, et qu'ils soumettront la question de manière tout à fait légale à leurs organes décisionnels, tels que le Congrès, afin de ne pas entraver sa mise en œuvre à l'avenir. L'une des principales conditions de la négociation est l'absence de menaces après l'accord et l'existence d'un mécanisme de déclenchement des sanctions. Snapback signifie pratiquement le maintien de la menace et l'échec des négociations. Il faut donc obtenir les garanties nécessaires pour qu'en cas de l'adhésion américaine au PGAC, le mécanisme de snapback, retour automatique et immédiat des sanctions, ne soient pas appliqués sous divers prétextes. Malheureusement, au cours des négociations, les États-Unis ont adopté de nouvelles sanctions contre des individus, des institutions et des appareils. ce qui témoigne d'une volonté destructive au cours des négociations. Par conséquent, il est nécessaire d'interdire explicitement l'imposition de nouvelles sanctions durant les négociations, également de déclarer que les sanctions levées ne seront pas réimposées. La République islamique d'Iran a le droit d'exporter du pétrole vers tout pays et dans toute mesure convenue par les parties dans le cadre du quota fixé par l'OPEP avant l'imposition des sanctions et selon le statut et la position de la République islamique d'Iran et d'en recevoir les revenus via le système bancaire. Le transfert des ressources financières et des intérêts de la République islamique d'Iran, y compris les ressources obtenues de la vente de pétrole et les ressources bloquées depuis tous les pays, et le droit de la République islamique et les pays négociateurs doivent supprimer les obstacles à cet effet. À cet égard, toute obstruction à la conversion des devises et à attirer les investissements dans la République islamique est interdite et n'est pas acceptée par la nation iranienne. Et le gouvernement iranien a le droit de les vérifier. Peut-on lire dans le texte. Les représentants du Parlement, tout en soutenant le gouvernement du président Raïsi, suivent de près les négociations et sans aucun doute, le gouvernement et le Parlement s'accordent sur la protection des intérêts nationaux et protégeront la loi de l'Assemblée consultative tout en respectant les lignes rouges. L'Assemblée consultative islamique soutiendra tout accord garantissant les intérêts du peuple iranien conformément à la loi de l'Assemblée et aux lignes rouges tracées par l'ordre de la République islamique d'Iran, conclut la lettre.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce samedi 9 avril 2022. Au moins 3 sionistes ont été tués, une quinzaine d'autres blessés dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'une opération anti-israélienne au cœur de Tel Aviv. Il s'agissait de la quatrième attaque de ce type au cours des 2 dernières semaines. Des centaines de militaires israéliens ont été déployés dans les rues de Tel Aviv pour identifier et trouver l'auteur de cette opération. Les groupes de résistance ont salué cette opération anti-israélienne. Le Hamas a affirmé que cette opération montrait en effet la capacité de la résistance à mener des attaques au cœur des territoires occupés. Les comités de résistance populaire ont jugé que cette attaque était une riposte légitime aux crimes israéliens. Le mouvement de la résistance islamique du Liban, le Hezbollah a également salué l'opération, affirmant que cette opération en effet démontrait la capacité de la résistance à répondre aux crimes de l'entité israélienne. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette intifada du Ramadan et la perspective, en effet, des opérations anti-israéliennes, alors que le régime sioniste se trouve de plus en plus dans l'impasse sur le plan sécuritaire, mais aussi politique. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
À peine une semaine après le fort complexe opération à Bnei Brak, troisième opération menée à coups d'armes automatiques à l'est de Tel Aviv, et au bout d'une semaine d'état d'alerte absolu de la police et de l'armée sioniste qui agissent sous un commandement conjoint, Tel Aviv a vécu l'enfer dans la nuit de jeudi à vendredi. une opération commando d'une complexité inouïe impliquant à la fois des snipers palestiniens, des fusils, des revolvers et des grenades a été menée simultanément dans plusieurs quartiers avec un bilan de pertes de 16 morts et blessés. Du jamais vu. Et tout ceci sans que l'entité puisse arrêter ou éliminer l'eau ou les commandos. Il s'agit de la quatrième opération du genre après celle de Bir Sheva le 23 mars, de la célèbre Hadera du 27 mars et celle de Bnei Brak à l'est de Tel Aviv le 31 mars. Opération menée au cœur d'Israël par sous-réseau opérationnel palestine-arabe-israélien qui opère visiblement sous un commandement conjoint et qui est soutenu par tous les groupes de résistance et que l'entité croit provenir de Jenin où Israël a récemment abattu trois commandants du djihad islamique et contre quoi des milliers de soldats sionistes mobilisés depuis jeudi soir dans les rues et quartiers de Tel Aviv ne peuvent strictement rien étant toujours à la recherche des auteurs. Le porte-parole de la police israélienne à Tel Aviv, Eli Levy, a annoncé que les fusillades avaient eu lieu dans trois endroits différents. Il a ajouté que quatre des blessés se trouvaient dans un état grave et qu'ils avaient été évacués vers l'hôpital. Les médias israéliens ont rapporté que l'explosion entendue jeudi soir à Tel Aviv avait été provoquée par une grenade artisanale lancé par l'auteur de la troisième opération vers des militaires israéliens. De son côté, le Hamas a félicité l'opération héroïque survenue à Tel Aviv et l'a qualifiée de réponse naturelle et légitime aux crimes commis par les occupants israéliens contre la nation, les terres et les lieux saints de la Palestine, notamment Rots et la mosquée Al-Aqsa. Le djihad islamique a pour sa part salué l'opération héroïque de jeudi soir, ayant fait plus de 16 morts et blessés.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous sommes en ligne depuis Damas avec Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Et depuis Beyrouth, avec Madame le docteur Qadda Oballa, professeur d'université et géopoliticienne. Madame le docteur Oballa, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Allô, Madame Oballa, est-ce que vous nous entendez? Nous avons un souci de liaison avec Madame Oballa, donc nous allons rejoindre tout de suite Maître Develet à Damas. Maître Develet, bonjour.
Oui, bonjour à vous et bonjour à Madame Kavala quand elle sera disponible.
Maître Develet, d'avoir accepté notre invitation. Alors, ces deux dernières semaines, Maître Develet, comme vous le savez, alors les opérations anti-israéliennes se sont multipliées, se sont intensifiées au cœur des territoires occupés. Alors, la quatrième attaque de ce type a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors, une première question, justement, dans quel contexte replacez-vous cette intensification des opérations anti-israéliennes et dans quelle mesure, en quoi ces opérations, les opérations de ce type, sont-elles différentes des opérations précédentes?
Écoutez, dans la première partie de votre question, au niveau du contexte, c'est un contexte qui voit que les revendications sont légitimes et, si je puis dire, les provocations qui avaient mené l'an dernier à l'opération de Houthi, épée de Houthi, sont toujours présentes quelque part et que rien n'a changé sur le terrain, que les provocations continuent, les confiscations et expropriations continuent, que des provocations sur les lieux saints sont de plus en plus menées par le gouvernement israélien qui, entre-temps, rappelons-le, est censé avoir changé hein, depuis l'ère Netanyahou, et que c'est une façon pour la résistance palestinienne de se rappeler au bon souvenir de l'occupation et de montrer leur capacité à pouvoir, et ça c'est au niveau de la tactique employée et des opérations, les dernières opérations effectuées, de faire en sorte de faire passer le message qu'aucun citoyen israélien n'est en sécurité et que l'État israélien n'est pas en mesure d'assurer la sécurité de ses citoyens. Donc c'est un message, une forme de guerre psychologique laisse à penser que la résistance souhaite maintenant, plus que jamais, pousser les contradictions internes de l'occupation à monter à la surface et faire en sorte que l'occupant, dans toutes ses composantes, mais surtout dans des villes comme Tel Aviv, qui sont des villes qui sont généralement considérées comme des arrière-bases ou loin des combats, loin des accrochages, ce genre de ville n'est pas épargné, point s'en faut, et que ce qui peut être mis en avant comme une forme de normalité pour ceux qui vivraient dans ces enclaves, il faut qu'ils gardent à l'esprit que non, que le conflit peut les atteindre eux aussi, qu'ils ne peuvent pas se détourner d'une réalité politique et humanitaire qui devient de plus en plus prégnant et fait que personne n'est en sécurité tant que tout le monde et tant que tous les droits des Palestiniens n'auront pas été pris en compte.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous. Alors, malheureusement, nous n'avons pas pu rejoindre Rav Dabrowpala, donc nous sommes en ligne alors avec Luc Michel depuis Bruxelles. Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous et bonjour à mon collègue. Je vais appeler de manière impromptue. Ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est que les Israéliens avec leur complice américain avaient pensé qu'ils allaient régler la situation, en particulier avec des accords d'Abraham, etc. Mais en poussant la population palestinienne au désespoir, en menant les opérations de colonisation, en établissant la capitale d'Israël à Jérusalem, évidemment, ils ont réduit une population au désespoir et qui n'a plus rien à faire. En particulier, le soutien israélien qui est mené, pas seulement par le gouvernement américain d'ailleurs, mais par le gouvernement français, on arrive à des situations évidemment qui ne sont plus possibles. Vous avez la situation de la présidentielle française qui est intervenue dans la politique palestinienne, et en particulier le soutien d'Éric Zemmour à la colonisation israélienne. Évidemment, elle a exacerbé la situation. Zemmour soutient la colonisation israélienne. Il a proposé même que l'un de ses soutiens, Gilbert Collin, soit nommé ambassadeur de France en Israël en cas de victoire de Zemmour, et évidemment reconnaissant la colonisation et l'établissement du colonialisme israélien à Jérusalem. Tout cela conduit à des situations désespérées vis-à-vis de la population palestinienne.
Merci pour ces éclairages. Restez avec nous, M. Michel. Maître Develet, alors, revenons en effet sur l'impact de cette opération, de ces opérations, les opérations des deux dernières semaines, alors sur la situation sécuritaire et politique. Vous avez relevé au passage justement alors cette capacité de la résistance à révéler au grand jour, à pousser en effet à la surface, comme vous disiez, les contradictions internes de l'entité israélienne. Mais il paraît que, justement, l'impact de ces opérations irait au-delà, en effet, de cette capacité et pourrait même bouleverser la situation sécuritaire au cœur des territoires occupés. Quel sera l'impact de ces opérations sur ces rapports de force entre la résistance palestinienne, les Palestiniens en général et l'entité israélienne?
Écoutez, l'impact, le problème avec l'occupation israélienne, c'est que plutôt que de pratiquer l'introspection et de prendre en compte une réalité objective qui les pousserait à enclencher une prise de conscience et partant de là s'atteler à réparer les injustices perpétrées en Palestine occupée, et ce depuis maintenant plus de 70 ans, on assiste au contraire toujours à une surenchère sécuritaire partant du principe que, et cela vis-à-vis de leur propre population, que plus de force et plus de, comment dirais-je, d'injustice est la seule façon d'adresser le problème. C'est un petit peu cette approche qui voit tous les problèmes comme étant des clous et que tous ces problèmes peuvent être résolus avec un coup de marteau. C'est ça, quelque part, qu'il faut mettre en avant. C'est ce que la résistance palestinienne s'efforce de faire. C'est d'amener, à un moment donné, l'opinion publique israélienne elle-même. Tout ce qui a pu être mis en avant jusqu'à présent n'a jamais marché. Et que la situation perdure, s'empire, c'est un abcès qui pullule, si je puis dire. Et que, en absence de sérénité dans la vie de tous les jours, il est difficile à partir de là pour les citoyens israéliens de concevoir une vie normale. Ce qui peut, sur la durée, convaincre pas mal d'entre eux que tout ce qu'on leur avait promis, en fait, en termes de nouvelles ou sécuritaires, n'est qu'un écran fumé. Personne n'est en sécurité, encore une fois, tant que les droits de tous toutes les personnes qui vivent dans ce pays, dans cet État, que ce soit un État de tous ses citoyens ou un État divisé sur des lignes ethnico-religieuses, ne sera pas garanti tant que, encore une fois, ces réalités ne sont pas prises en compte. Et je pense que, in fine, et sur la durée, c'est l'objectif de la résistance palestinienne, c'est d'amener la citoyenneté, les citoyens israéliens tous les jours à demander des comptes à leurs dirigeants et de les pousser dans une voie qui, mènerait à des négociations qui prennent en compte toutes les demandes de la résistance palestinienne telles qu'elles existent sur papier depuis au moins 40 ans maintenant. La formule, on la connaît, plusieurs suggestions ont été mises en avant. La dernière en date qui pourrait s'apparenter à quelque chose qui recueillerait un certain consensus, c'est l'initiative de 2002, l'initiative de Riyad. Mais les Israéliens, visiblement, en tout cas une partie du leadership israélien, ne veulent pas en entendre parler. Ils sont dans une espèce de fuite en avant idéologique, mais qui, de plus en plus, est en rupture totale avec la perception du citoyen israélien de base, qui, lui, si vous voulez, ne comprend pas la disparité qui existe entre le discours officiel et la réalité que lui-même vit au jour le jour. Et cela peut mener, effectivement, après à une forme d'exode inversé, parce que les Israéliens vont commencer à peut-être se poser la question que le jeu n'en vaut pas la chandelle et repartir, si je puis dire, dans des pays où ils n'auront pas à être constamment sur leur garde et regarder au-dessus de leurs épaules. Et cela serait donc le début de la fin pour le projet colonial sioniste.
Merci encore, Maître Develay. Monsieur Michel, selon de nombreux analystes, en effet, cette intifada du Ramadan est une réponse légitime à cette surenchère sécuritaire, comme disait Maître Develay, à l'intensification, en effet, des crimes israéliens. Alors, d'abord, concernant la perspective des évolutions à venir sur le plan sécuritaire, quelle est votre opinion, votre point de vue? Et puis, surtout sur le plan politique, quelles seront justement les retombées de cette situation sur notamment alors ce prétendu processus de normalisation entre Israël et les États arabes, les monarchies arabes du Golfe Persique?
Bien au contraire, de ramener le réalisme dans la politique israélienne, c'est au contraire une fuite en avant vers les éléments les plus radicaux du sionisme. Il y a une crise israélienne politique qui laisse moindre à l'horizon le retour au pouvoir de Netanyahou. Il faut rappeler qui est Netanyahou. C'est l'héritier de Jabotinsky, c'est-à-dire l'héritier de ce qu'on appelle en Israël le révisionnisme sioniste. Mais en fait, ce révisionnisme sioniste, c'est en fait le fascisme israélien, le fascisme sioniste. Netanyahou, c'est l'héritier de Jabotinsky, c'est-à-dire des partisans de la théorie, des bourgeois d'Israël, c'est-à-dire du sionisme radical de Brian, sur une question militariste du sionisme. Aujourd'hui, les ceux qui avaient éjecté du pouvoir Netanyahou, ils n'ont plus de majorité. Ils n'ont plus d'une majorité. Et la possibilité de revenir au pouvoir de Netanyahou, c'est une coalition qui s'appuie sur les révisionnistes sionistes, c'est-à-dire le fascisme d'extrême droite sioniste israélien appuyé sur l'extrême droite, sur l'extrême droite israélienne. Et sur les éléments radicaux d'Avigdor, évidemment, des éléments les plus radicaux du sionisme. C'est à cela qui se laisse poindre à l'horizon. Et évidemment, la réaction désespérée des Israéliens, évidemment, excusez-moi. Je suis fatigué. Là, les éléments les plus radicaux du sionisme qui vont revenir au pouvoir, évidemment, c'est cela qui radicalise les éléments.
Merci infiniment. Merci,
Luc. Les éléments, évidemment, anti-sionistes et les éléments palestiniens qui refusent cette radicalisation du sionisme derrière Netanyahou et ses complices.
Merci infiniment. Alors, une toute dernière question à Maître Develet. Maître Develet, donc, alors, pour les semaines, les mois et même les années à venir, alors, si la situation persiste, si la situation, bien sûr, va avec, comme vous avez souligné, alors, les Palestiniens ne resteront pas les bras croisés face à l'exacerbation de la situation, l'intensification des crimes israéliens. Donc, l'entité israélienne est plus que jamais, en effet, exposée, Maître Develet, à l'implosion, et notamment, en effet, sur le plan intérieur.
Oui, malheureusement, j'en ai bien peur. Et comme l'a bien souligné Luc Michel, ça fait même pas un an depuis la dernière élection législative israélienne. Et déjà, la coalition montée par Lapid et Naftali Bennett vient de tomber, ce qui peut laisser entendre qu'il y aurait un nouveau cycle d'élections. Et on peut être raisonnablement avisé de penser que Netanyahou va revenir au pouvoir avec cette idée que, vous voyez, dès qu'on on prétend faire les choses différemment que moi je les ai faites, la situation sécuritaire s'aggrave, et que dans ce contexte-là, effectivement, on va assister à une frange radicale donc, du groupement sioniste qui va s'arc-bouter sur les préceptes que Luc Michel a parfaitement mis en avant, à savoir le révisionnisme sioniste, Jabotinsky, qui sont quelque part les mêmes personnes que l'on retrouve derrière l'État ukrainien. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont prêts à jouer la fuite en avant, à rajouter du fuel sur le feu et à étendre la violence de telle sorte que leur responsabilité n'est jamais établie. Ce ne sont pas des gens avec lesquels on peut s'asseoir et discuter sur une réalité objectif avec des termes de référence acquis. Ce sont des gens qui sont dans l'idéologie et l'idéologie jusqu'au boutiste. Et c'est là où ça devient effectivement dangereux parce que plutôt que d'admettre qu'ils se sont trompés, ils seraient disposés à emmener toute la population israélienne dans l'abîme avec eux. Parce que n'ayons aucun doute sur le sujet, la résistance palestinienne finira par vaincre et à reprendre et à réétablir les droits de la Palestine avant le projet colonial. Mais la question qui se pose, c'est à quel prix, malheureusement.
Maître Arnaud Develet, juriste international et spécialiste des questions internationales depuis Damas, Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt.
À très bientôt. Voilà. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Des manœuvres militaires conjointes entre l'Algérie et la Russie. L'Algérie et la Russie s'apprêtent à lancer des manœuvres militaires conjointes à l'automne 2022 dans le sud algérien. C'est ce que rapporte ce mardi 5 novembre les médias russes qui citent le bureau de presse de la région militaire sud de la Russie. Alors que la guerre bat son plein en Ukraine, la coopération entre l'Algérie et la Russie n'a pas connu de répit. La visite officielle le lundi 4 avril par le ministre algérien des Affaires étrangères à Moscou en est la parfaite illustration. Ramtane Lamamra s'est notamment entretenu avec le chef du conseil de sécurité russe Nikolai Patrouchov autour des axes et des perspectives de renforcement de la coopération entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les entretiens entre Lamamra et les hauts responsables russes ont porté sur les principaux axes de la coopération entre l'Algérie et la Russie, ainsi que les voies et moyens de la renforcer dans divers domaines. En su des questions relatives à la préparation des prochaines échéances bilatérales, et ce pour imprimer une nouvelle dynamique aux mécanismes régissant les relations stratégiques unissant les deux pays, a précisé le communiqué. Au lendemain de cette visite de Lamamra à Moscou, le média russe Russia Today, qui cite un communiqué de presse sur la région militaire sud de l'armée russe, a rapporté ce mardi 5 avril que les armées algériennes et russes ont convenu de mener des manœuvres militaires conjointes à l'automne prochain en Algérie. Des manœuvres qui ne sont pas les premières du genre entre les armées de deux pays. Dans son communiqué, la région militaire sud de l'armée russe a indiqué que la première réunion de planification pour ces manœuvres conjointes entre les forces terrestres russes et algériennes dans le cadre de la lutte antiterroriste s'est tenue dans la ville russe de Vladikavkaz. Au cours de cette réunion, le scénario de l'exercice militaire et de l'organisation de la logistique ont été coordonnés selon la même source. Ces manœuvres prévues en novembre 2022 à la base militaire de Hamagir, donc la wilaya de Béchar en Algérie, porteront sur des exercices tactiques pour la recherche, la détection et la destruction de groupes terroristes armés, précise-t-on encore. Environ 80 militaires russes de la région militaire du Sud participeront à ces exercices, selon la même source. L'Algérie exprime son attachement au partenariat stratégique profond avec la Russie. Le président du Parlement algérien, Brahim Bourali, a affirmé l'engagement de la Russie dans son partenariat stratégique approfondi avec la Russie, ont rapporté les médias algériens. Lors de sa rencontre le lundi 4 avril avec l'ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaov, M. Bougali a souligné que les relations bilatérales distinguées qui unissent les deux pays sont marquées par une longue histoire de réalisation, témoignent du développement de la coopération au niveau parlementaire, en particulier après la création récente
d'un groupe parlementaire pour l'amitié avec la Russie. M. Bougali a appelé à exploiter toutes les possibilités disponibles pour diversifier le domaine de coopération, louant dans ce contexte ce que la coopération militaire a réalisé entre les deux pays. Concernant l'opération militaire russe en Ukraine, le président de la Chambre basse du Parlement algérien a expliqué que l'Algérie adopte une approche pacifique de la résolution des crises basée sur le dialogue et les négociations, appelant à l'unification des normes dans la gestion des crises. De son côté, l'ambassadeur de Russie, Igor Belyaov, a salué le niveau de coopération qui rapproche les deux pays à différents niveaux, ajoutant que la partie russe est sur le point de créer un groupe d'amitié parlementaire afin de coordonner avec son homologue. Il a remercié l'Algérie pour sa position équilibrée sur la crise en Ukraine et a salué les positions exprimées par les parlementaires algériens qui ont récemment participé aux travaux de l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire qui s'est tenue en Indonésie. Lundi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est entretenu depuis Moscou avec son homologue algérien Ramtane Lamamra en marge d'une réunion avec des représentants du groupe de contact de Ligue des États arabes. Au cours de l'entretien, le ministre russe des Affaires étrangères a exprimé son intention de se rendre prochainement en Algérie, selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, notant qu'il était heureux d'avoir l'opportunité de discuter des relations bilatérales avec l'Algérie. Toutes les déclarations d'Erdogan sont une ingérence dans les affaires internes. C'est la réaction du côté des Tunisiens aux récentes déclarations du président turc. Le ministère tunisien des Affaires étrangères a exprimé son profond étonnement face à la déclaration du président turc Recep Tayyip Erdogan concernant qui a critiqué la décision prise par le président tunisien de dissoudre le Parlement. Le mardi 5 avril, Erdogan a critiqué la décision prise la semaine passée par le président tunisien Kais Saied de dissoudre le Parlement, la qualifiant de distorsion à la démocratie. Il a aussi condamné cette démarche qui est une source d'inquiétude pour l'avenir de la Tunisie, un coup porté à la volonté de son peuple, craignant que l'évolution en Tunisie ne nuise aux efforts du pays pour établir une légitimité démocratique et ne fasse dérailler le processus électoral dans le pays. En réponse, le ministère tunisien des Affaires étrangères a publié un communiqué mardi dans lequel il a condamné une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures, laquelle contredit totalement les liens fraternels qui unissent les deux pays et peuples et le principe du respect mutuel entre les deux pays. Dans la mesure où la Tunisie adhère au principe de sa politique étrangère et est soucieuse de construire une relation étroite avec les pays frères et amis basée sur la coopération, la solidarité, la concertation et la confiance mutuelle, elle adhère également à l'indépendance de sa décision et rejette fermement toute tentative d'ingérence dans sa souveraineté et les choix de son peuple ou de remettre en cause sa voie démocratique qui ne la renverse pas, est-il écrit dans le texte. Le ministère des Affaires étrangères a affirmé que la Tunisie est un pays libre, indépendant et que le peuple en est le souverain et qu'il est le seul autorisé à choisir la voie de la liberté réelle qui préserve sa sécurité, sa dignité, soutient ses droits, valorise ses acquis et rompt avec les vestiges du passé et avec la voie d'une démocratie formelle qui n'a rien à voir avec la volonté des hommes et des femmes tunisiens.
Ce
ce jeudi marqué chez la Journée internationale de réflexion sur le génocide rwandais de 1994, au cours duquel plus d'un million de personnes ont péri dans l'horreur. À l'occasion du 28e anniversaire du génocide rwandais contre les Tutsis, la Commission de l'Union africaine et la mission permanente de la République du Rwanda auprès de l'Union africaine ont organisé conjointement une commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis. Et le président de Rwanda, Paul Kagame, qui aussi a prononcé un discours à cette occasion. Paul Kagame a critiqué les grands pays qui n'ont jamais agi pour arrêter le massacre et qui critiquent maintenant le manque de liberté d'expression dans ce pays d'Afrique de l'Est. Certains de ces pays sont grands, mais ils n'ont aucune leçon à donner à quiconque, car ils font partie de l'histoire qui a causé la mort de plus d'un million de non-concitoyens. Ils en sont la cause, a déclaré Paul Kagame lors d'un événement commémorant le 28e anniversaire du début du génocide. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission consacrée à l'actualité africaine. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.